En 1978, Roy Bates, alors prince souverain de Sealand, appelle des mercenaires équipés d'un hélicoptère d'assaut afin de défendre son état face à des acheteurs qui avaient fait otage son fils, l'actuel prince Michael Bates. Sealand est très sûrement l'exemple le plus connu de ce que l'on appelle des états fantaisistes, des états caractérisés par leur non-recognition par les autorités internationales comme l'ONU, mais aussi par d'autres pays, qui sont souvent éphémères et très très souvent des micro-états qui ne dépassent pas plus de quelques kilomètres carrés. Depuis le XVIIIe siècle, ces états n'ont de cesse de se développer aux quatre coins du monde. Je suis Thierry Warnet, et je suis aujourd'hui, et comme à mon habitude, accompagné de mon acolyte Thomas Burkhardt.
Bonsoir.
Afin de vous parler de ces états fantaisistes méconnus, dans l'histoire contemporaine plus principalement.
Et commençons tout d'abord par le Texas. La République du Texas était en effet un état indépendant, situé en Amérique du Nord, existant entre 1836 et 1845. Alors avant d'être le territoire de prédilection des gros hummers américains et des ribs au barbecue, le Texas devient une république indépendante, née après la révolution contre le Mexique, culminant avec la victoire texane à la bataille de San Jacinto en avril 1836. Sam Houston en devint le premier président, qui lutta pour sa reconnaissance internationale tout en faisant face à des tensions avec le Mexique et des conflits internes. Finalement, en 1845, le Texas fut annexé par les États-Unis, devenant le 28e État de l'Union, un facteur contribuant à la guerre américano-mexicaine entre 1846 et 1848. Cette annexion eut également un impact sur les tensions nord-sud aux États-Unis, précipitant plus tard la cession du Texas en 1861 pour joindre les États confédérés d'Amérique.
À la même époque que ces dix États confédérés, un projet américain, porté par un certain Joshua Norton, trouve moins de succès. Celui-ci, donc Joshua Norton, sud-africain de naissance et d'origine judéo-britannique, émigre aux États-Unis en 1845, plus particulièrement donc aux alentours de San Francisco, sur la côte ouest, afin d'y effectuer du commerce. Norton était en effet, avant de venir vivre l'American Dream, un marchand. Il avait d'ailleurs fait faillite en Afrique du Sud. Voilà. Il continue ainsi ses activités à San Francisco dans le commerce du riz. Son commerce le fait devenir un des personnages les plus riches et connus et appréciés de la ville. Cependant, celui-ci fait banqueroute dès 1856, 11 ans après son installation dans la grande ville de San Francisco. C'est à peu près à cette époque, à partir de 1858, que Joshua Norton commence à avoir des ambitions politiques, se présentant notamment pour une place au Congrès américain. Devenu pauvre, il s'autoproclame empereur des États-Unis et du Mexique. Cette décision est une réaction directe au sujet évoqué précédemment, voyant les confédérés commencer à pousser pour leur indépendance. Joshua Norton se couronne sous le nom de Norton Ier afin de mettre en place un pouvoir central et fort aux États-Unis. Personne ne prend vraiment le projet au sérieux, même si Joshua Norton tente des rapprochements avec Napoléon III et Maximilien du Mexique, dont on a parlé dans une émission précédente, pour lesquels il abandonne le titre d'empereur du Mexique, se mettant ainsi comme protecteur plutôt du Mexique, donnant le titre d'empereur à Maximilien. Bon, personne ne le reconnaît hein, dans tous les cas. Mais aussi, il tente des approches étrangères avec Kamehameha V, roi d'Hawaï, et même un mariage diplomatique avec la reine Victoria du Royaume-Uni, assez couillu comme décision, si on peut se permettre. Norton fait aussi tirer sa propre monnaie, il se prend en photo avec des régalias, un grand chapeau avec des plumes et une épée de cérémonie, avec lesquelles il se balade dans San Francisco. Il est reconnu et énormément apprécié dans la ville, mais personne ne reconnaît vraiment, ne le prend vraiment au sérieux. Le projet prend fin quand Norton meurt en 1880, à 61 ans. Son passage laisse tout de même une trace dans l'histoire des États-Unis. Par exemple, le Call, le journal éminent de San Francisco, titre à sa mort « Le roi est mort ».
Pour rester en Amérique, je vais vous parler maintenant du cacicat de Poyais, qui fut l'une des plus grandes escroqueries du 19e siècle, orchestrée par l'aventurier écossais Gregor MacGregor. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait vraiment très très écossais, Gregor MacGregor.
Le plus écossais de tous les écossais.
Ah bah ça. Et donc ce très cher MacGregor, après avoir combattu dans les guerres d'indépendance sud-américaines, il retourna en Europe. Et en prétendant être le souverain donc d'un état en Amérique centrale, une terre fertile et prospère appelée Poyais. Il lança alors une vaste campagne de propagande, vendant des terres et des obligations à des investisseurs britanniques et français, tout en encourageant des colons à s'installer sur place. Mais en 1822, les premiers arrivants découvrirent une jungle hostile, dépourvue de toutes infrastructures. La plupart périrent de maladies ou de famine, révélant ainsi la supercherie. Malgré cet échec, MacGregor poursuivit ses manœuvres frauduleuses avant d'être démasqué et emprisonné en France. Il finit par s'exiler en Amérique du Sud, en Amérique du Sud, pardon, où il obtint une pension militaire du Venezuela, pays où il mourut en 1845.
Le 19e siècle voit aussi une autre nation américaine apparaître, toujours en Amérique du Sud, le royaume d'Araucanie et Patagonie. Tout commence quand un juriste et aventurier périgourdin, Antoine Aurélie Tounin, qui se fait appeler plus tard Antoine de Tounins, trouve l'idée de donner une terre américaine à la France, à la manière de la Nouvelle-France, la Louisiane, par exemple. Son attention se porte alors sur les terres australes d'Amérique du Sud, l'Araucanie, et en second plan, la Patagonie, alors occupée par la tribu des Mapuches, tribu donc native de l'endroit. En 1858, donc, il débarque au Chili et commence à nouer une alliance avec le chef mapuche local, un certain Quilapan, grande figure de la résistance indigène face aux Chiliens. En effet, les Mapuches, à ce moment-là, sont en guerre contre le gouvernement chilien afin d'obtenir une indépendance, si ce n'est une souveraineté au moins. Antoine de Tounin se fait alors acclamer chef de guerre suprême des Mapuches par plein de chefs de tribu. Pourquoi ? Bah parce qu'il promet des armes aux Mapuches, armes qu'il ne livrera jamais, il est bon de le dire. Le royaume est donc officiellement fondé en novembre 1860 et la région de Patagonie y est rattachée 4 jours plus tard, le 20 novembre. Antoine gouverne alors sous le nom d'Orly Antoine Ier, secondé par deux ministres qu'il a lui-même inventés, qui lui servent de premier ministre et de garde des sceaux. Afin de ratifier ses actes, il signe les actes de sa main, tous sous 3 signatures différentes, avec 3 manières d'écrire différentes. L'histoire du royaume d'Araucanie-Patagonie prend cependant fin dès 1862, quand le roi est arrêté par les autorités chiliennes pour agitation politique. Il est jugé comme fou, et jusqu'on a vu, oui, ça avait l'air d'être un sacré lunatique, et son histoire est jugée comme anecdotique dans l'histoire sud-américaine. Il est bon de noter cependant que le royaume, se considérant comme une monarchie élective, des prétendants existent toujours. En effet, après la chute d'Orly Antoine Ier, son secrétaire Achille et sa grande moustache ont été élus comme roi, mais jamais reconnu par quiconque, et donc prétendant. Et ça se continue jusqu'à nos jours avec l'actuel prétendant au trône de ce royaume déchu, qui est ainsi un certain Philippe Pichon, avocat au barreau de Limoges, se faisant nommer donc Philippe III depuis son élection le 6 avril 2024 par les tribus Mapuches qui forment le conseil de régence.
Et en parlant de Limoges, moi je vais vous parler de la Franche-Comté. Alors certes, dit comme ça, c'est un peu un raccourci, comment dire, un peu alambiqué, mais c'est que en 1947, que justement dans cette Franche-Comté, que la République de Saugeais est proclamée de manière humoristique et symbolique par un groupe d'habitants et de passionnés locaux. Cette République a donc été fondée à la suite d'une plaisanterie lancée par des habitants qui voulaient affirmer leur identité culturelle marquée par un dialecte et des traditions spécifiques. Nichée au fin fond de la Franche-Comté, la petite République est tout de même un territoire d'une superficie de 128 km². C'est un régime qui se distingue par son caractère républicain très informel, hein. Il n'y a pas de constitution, pas de gouvernement central et pas de véritable pouvoir politique, si ce n'est une autorité symbolique représentée par un président élu parmi les habitants. C'est une tradition qui perdure encore aujourd'hui avec des manifestations occasionnelles et des événements comme les élections humoristiques ou des cérémonies de réaffirmation de son existence. L'idée derrière cette république était avant tout une forme de résistance douce à l'uniformisation et la centralisation de l'État français. Les habitants de Saugeais, qui parlaient encore donc un dialecte spécifique et cultivaient des coutumes particulières, ont voulu préserver leur singularité et leur tradition. En somme, la République du Saugeais est avant tout un exemple de folklore et d'identité locale, un symbole de l'autodétermination régionale et de l'esprit d'indépendance qui peut exister dans les coins reculés de la France. Il est tout de même possible d'acquérir des plaques automobiles saugettes et il est parfois possible de voir des gendarmes saugais sur l'une des 11 communes de la micronation, bien qu'il ne s'agisse là que de bénévoles, évidemment.
Il est bon de noter d'ailleurs qu'on a ça.
Oui, aussi à Lasse. Oui, dans le Béarn, c'est juste.
Depuis pas si longtemps que ça, 2011, je crois.
Il me semble, oui.
Avec le maire qui a déclaré que c'était une principauté.
C'est ça.
À la même période, enfin, ce dont je parlais s'arrête dans les années 40, il commence dans les années 40, et assez anecdotiquement, il faut le dire, parce que c'est pas un état fantaisiste comme on en a vu juste avant, mais l'histoire est tout de même assez surprenante et elle est tellement folle que je m'en vais vous la conter. C'est celle du Sarawak et de ces rajas blancs. Un raja, c'est un roi en Asie du Sud-Est. Pour la faire courte, James Brooke, aventurier et soldat britannique, obtient en 1842 du sultan du Brunei Omar Ali Saifuddin, deuxième du nom, le gouvernement du Sarawak, appartenant alors au sultanat, donc en Malaisie. Un royaume européen apparaît alors en Asie du Sud-Est, ne dépendant pas du Royaume-Uni. On est sur un royaume parfaitement indépendant, qui n'a de compte à valoir à personne, ce qui est assez fou. À sa mort en 1868, à la mort donc de notre cher James Brooke, son neveu Charles Brooke prend sa suite. Alors, anecdote marrante d'ailleurs sur Charles Brooke, sa femme, Margaret de Wint, est une Roosevelt de sang. Par sa mère, elle est en effet une cousine au quatrième degré de Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis de 1933 à 1945. Bon, je trouvais ça assez drôle de le mentionner tout de même. Et Charles Brooke meurt en 1917 après un règne peu événementiel, laissant sa place à son fils Charles Viner, qui se démarque de ses ancêtres en laissant plus de place aux droits et coutumes des indigènes et en abrogeant la place des missionnaires chrétiens. Après l'invasion japonaise de tout cet archipel, durant la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle le Raja s'était enfui, celui-ci abdique en 1946, donnant ses droits à la couronne britannique. Le royaume, de moins de 100 ans alors, s'effondre et laisse sa place à un gouverneur britannique. Et il est bon de noter cependant que la famille du Raj ne disparaît pas totalement. Donc Charles Viner, il meurt dans les années 1960, mais son neveu, Anthony Brooke, exerce de nombreux postes dans l'administration du Sarawak britannique. Il est notamment suspecté d'avoir commandité l'assassinat du deuxième gouverneur britannique de la région, Duncan Stewart, en 1949. Le Sarawak revient en fin de compte à la Malaisie en 1963 avec tous les mouvements tiers-mondistes et indépendantistes.
Eh bien, un autre pays autoproclamé dans un pays déjà existant, hein, il va s'agir d'un quartier, celui de Christiania, situé à Copenhague, au Danemark. C'est une enclave donc autogérée, fondée en 1971 par un groupe de squatteurs et d'utopistes. Installés sur une ancienne base militaire désaffectée, ils proclamèrent la naissance d'une ville libre, indépendante des lois danoises et régie par des principes anarchistes et communautaires. Christiania devint assez rapidement un symbole de contre-culture, attirant hippies, artistes et marginaux. Son mode de vie alternatif et sa célèbre Pusher Street, où le commerce du cannabis fut longtemps toléré, firent de ce quartier un lieu unique en Europe, à la fois contesté par les autorités et défendu par ses habitants. Malgré plusieurs tentatives de normalisation par le gouvernement danois, Christiania a su se préserver, elle et son caractère distinct, grâce à une forte mobilisation locale. En 2012, un accord permit aux résidents d'acheter légalement les terrains qu'ils occupaient, leur conférant une forme de légitimité tout en maintenant une autogestion collective. Aujourd'hui, bien que transformé par le tourisme et les pressions urbanistiques, Christiania reste un exemple rare de communauté alternative, durable, mêlant liberté individuelle, expérimentation sociale et résistance au modèle traditionnel.
On n'a pas un autre exemple comme ça à Hong Kong, avec un quartier extrêmement densément peuplé, beaucoup moins utopiste, il me semble, quelque chose comme ça?
Oui, en effet, dans le même courant, on retrouve la citadelle de Kowloon, je ne saurais vraiment pas pour vous dire comment ça se prononce, hein, donc je tiens à m'excuser d'avance si j'offense quelqu'un. Et donc c'est situé à Hong Kong en effet, et ce fut l'un des endroits les plus densément peuplés et anarchiques du monde. D'abord fort militaire sous le contrôle chinois, puis enclave juridiquement ambiguë après la colonisation britannique de Hong Kong, la citadelle se transforma au XXe siècle en une ville autonome, échappant presque totalement à l'autorité des gouvernements entre les années 50 et 90. Elle devint même un gigantesque dédale de bâtiments imbriqués, où 35 000 habitants vivaient sur seulement 2,6 hectares sans véritable planification urbaine ou régulation. Malgré des conditions de vie précaires, l'absence des lois permit l'essor des activités clandestines, mais aussi d'un tissu social et économique autonome, avec ses propres médecins, écoles et artisans. Face à l'insalubrité et au chaos grandissant, le gouvernement de Hong Kong décida de raser la citadelle en 1993, après avoir relogé ses habitants. Aujourd'hui, l'espace est devenu un parc commémoratif, mais l'image de Kowloon demeure un symbole fascinant d'urbanisme spontané et de survie autarcique. Son histoire inspire encore aujourd'hui l'imaginaire populaire, notamment dans la science-fiction, les jeux vidéo, où elle incarne une vision dystopique de la ville anarchique et ultra-dense, à la manière d'un cyberpunk 2077.
Oui, Blade Runner.
Exactement, d'un Blade Runner. Enfin, vous voyez ce genre de dystopie où l'on vit tous les uns sur les autres dans des villes ultra-bondées, mêlant technologie et insalubrité.
Et comme on peut le voir, c'est pas forcément si dystopique que ça.
En effet.
Eh bien, sur cet exemple sud-asiatique et contemporain, c'est la fin de l'émission. On a pu voir que ces états fantaisistes se fondaient Bah, pour plein de raisons différentes en réalité,
en effet, oui.
Que ce soit pour des envies d'indépendance, comme avec Christina, comme avec. Bon, avec Kowloon, c'est un petit peu plus.
C'est un peu plus compliqué parce que c'est surtout des gens qui vivaient là, puis comme c'est ambigu juridiquement, personne ne veut s'en occuper, donc les gens se débrouillent.
C'est ça, ou encore même avec, avec Sealand, comme mentionné, qui était au départ juste simplement une station de radio. Mais aussi pour des ambitions territoriales, comme à Sarawak, comme avec l'Empire d'Amérique, même si pour lui c'était plus une envie d'ordre.
Oui,
ou encore avec l'Araucanie Patagonie, Araucanie Patagonie, autant pour moi. nous nous retrouvons donc dans 2 semaines, même jour, même heure, même gens, pour parler d'un sujet cher à nos cœurs étudiants, l'histoire et l'évolution d'une des bases de la société, même
de la base de la société, si je peux me permettre.
J'ai nommé l'alcool. Et surtout, n'oubliez pas, l'histoire, c'est vieux, c'est fin, et ça se mange sans fin.